Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Les mystères de l'enfance de Jésus, c'est là que nous en sommes dans notre parcours sur le catéchisme. Nous sommes dans les mystères de Jésus, de la vie de Jésus, et donc ici les mystères de l'enfance. Alors c'est important de redire, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins l'évangile, hein, qui sont moins habitués à le lire, il y a dans les évangiles, donc Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, on trouve ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance chez Saint Matthieu et Saint Luc. Saint Luc, on connaît tout spécialement, c'est là qu'est le récit de la naissance de Jésus avec le recensement, et Saint Luc qui fait cette œuvre d'historien qui va nous montrer à quel moment ça se passe, qui essaie d'attester comme un témoin qui a le souci de la réalité des choses, si on peut dire. Et puis il y a toute la préparation, nous parlions l'autre fois de la préparation de ce qui va nous conduire à cette naissance. Ce sont les personnages évidemment de la Vierge Marie, mais aussi de Zacharie, le prêtre Zacharie, et Élisabeth, son épouse. En Saint Matthieu, il y a aussi des évangiles de l'enfance dans lesquels on trouvera l'annonciation à Joseph, on a celle à Marie en Saint-Luc, on a une annonciation à Joseph. On a aussi cette généalogie de Jésus. Jésus est né dans un peuple, hein, c'est ce que Matthieu a voulu montrer, le Messie attendu par le peuple juif, et bien dans ce peuple, il le situe avec Abraham. Il est dans la lignée d'Abraham et de David, c'est comme ça que Saint Matthieu pose les choses. Donc voilà, il me semblait important de rappeler, et on ne peut qu'inviter ceux qui ont moins l'habitude de lire l'évangile, à relire ces évangiles de l'enfance. Oui. Ce sont des beaux textes. Et finalement, ça nous aide à entrer dans ces mystères de l'enfance de Jésus que le catéchisme nous redonne ici.
Oui, et de comprendre que Jésus a voulu vraiment s'inscrire dans le peuple juif. Il n'a pas voulu seulement jouer la carte, je dirais, de l'universel d'emblée. Il a voulu que l'élection passe par ce que la première alliance avait déjà discerné, l'élection d'un peuple en vue du salut de tous. Et Jésus a voulu jouer le jeu, je dirais, jusqu'au bout. Il a voulu être de cette race d'Abraham, fils de la Vierge Marie, fils de la loi, circoncis. Car Abraham, bien sûr, avait d'abord eu une alliance, une annonce d'alliance universelle en Genèse chapitre 15, et c'est celle-là sur laquelle nous serons greffés, mais Abraham a eu dans sa chair une marque de cette première alliance qui apparaît en Genèse chapitre 17. Or, Saint Paul se pose la question d'une manière très nette en Romains chapitre 4, verset 10, comment cette justice fut-elle comptée à Abraham quand il était circoncis ou avant qu'il le soit? Et il répond, non pas après, mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il possédait quand il était incirconcis. Donc la grâce précède ce signe. Et pour nous, c'est important de comprendre avec saint Paul que la circoncision ou l'incirconcision ne sont rien, comme il dit dans de multiples passages de l'Écriture. Ce qui compte, c'est la circoncision du cœur. Le vrai juif, dira saint Paul dans Philippiens, chapitre 3, verset 3, le vrai circoncis, c'est celui qui est circoncis du cœur. Et il y a donc un changement total, c'est-à-dire c'est plus seulement une appartenance à la chair, même si Jésus a voulu la vivre pour être dans la prolongation de la première alliance, nous en sommes affranchis parce que ce que nous cherchons, c'est le modèle de la circoncision du cœur. Et il ne faut pas nous oublier que si saint Paul en parle de cette circoncision du cœur, il le parle, mais dans l'axe de la continuité avec la première alliance. dans l'Épître aux Romains que je citais à l'instant, au chapitre 2, verset 29, où il nous est dit que la circoncision est en lien avec la loi, mais en verset 29, il nous dit « Le vrai juif l'est au-dedans et la circoncision dans le cœur selon l'esprit et non pas selon la lettre. Voilà ce qui tient sa louange, non des hommes mais de Dieu. » Et cette prolongation avec l'Ancienne Alliance, c'était cet appel qu'on entendait dans le Deutéronome au chapitre 10, verset 16, où Dieu, s'adressant au peuple juif, disait par la bouche de Moïse « Circoncisez votre cœur. » Et Jérémie, le grand prophète de la souffrance du peuple, en quelque sorte, parce que le peuple a péché et qu'il y a un appel à un retour à Dieu, vous avez en Jérémie 4:4 cette interpellation du peuple qui dit cette chose très forte, « Circoncisez-vous ». Pour le Seigneur, ôtez le prépuce de votre cœur, gens de Juda et habitants de Jérusalem. Donc, cette idée d'une circoncision du cœur est déjà inscrite dans l'ancienne alliance qui annonce la nouvelle alliance. Vous savez que le prophète Jérémie a été le prophète de l'annonce de cette nouvelle alliance que Jésus va réaliser. Et finalement, dans le Deutéronome, on nous fait comprendre que, bien sûr, il y a une part de nous-mêmes qui devons nous disposer, faire tout notre possible pour rentrer dans cette disposition de la volonté de Dieu, mais finalement, c'est Dieu qui la réalise. C'est en Deutéronome 36, dans lequel il est dit explicitement que c'est Dieu qui circoncit les cœurs. Pour nous, c'est important. Adonai, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta prospérité pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et le projet de Dieu se réalise par une conjonction entre le don que lui-même réalise, c'est lui qui agit, Dieu circoncira votre cœur, c'est Dieu qui agit, et en même temps, nous devons nous-mêmes contribuer, circonciser votre cœur. Vous voyez, il y a toujours ce double aspect, Dieu qui agit, mais nous-mêmes qui agissons pour rendre compte de cette volonté de Dieu en nous, l'accepter et la rendre vivante, de telle sorte que nous puissions dire, avec tous les justes de l'Ancienne Alliance, que nous sommes les vrais juifs, en quelque sorte, les circoncis du cœur, ceux qui ont fait en sorte que nous prenions la volonté de Dieu en nous-mêmes, dans les plus grandes profondeurs. Et la première en chemin, c'est bien la Vierge Marie, dont les mystères de l'enfance sont développés dans ces numéros, où on nous dit que Siméon et Anne, dans le temple, sont venus au-devant de la Vierge Marie pour l'accueillir au moment du recouvrement de la Vierge Marie au temple, et Siméon lui prophétise que un glaive lui percera le cœur. Ce Siméon est mystérieux parce qu'il les bénit. Normalement, la bénédiction est réservée aux prêtres, et ce Siméon, on ne sait même pas s'il est prêtre, il arrive comme une sorte de Melchisédek, proposer à Abraham le pain et le vin. Là, il vient donner sa bénédiction et il dit des choses très fortes sur la circoncision du cœur de la Vierge Marie. Un glaive te percera le cœur. Et d'une certaine manière, Jésus sur la croix, au moment du coup de lance, n'est-ce pas la circoncision du cœur, voyez. Donc on comprend très bien que cette circoncision du cœur est capitale, et ce qui était seulement dans la chair, inscrit dans la chair, était signe d'une réalité spirituelle. C'est pour cela qu'avec raison, saint Thomas d'Aquin le remarque, que la circoncision était en fait donnée pour la grâce, c'était un sacrement de la grâce qui bien sûr n'avait pas d'efficacité par lui-même, mais qui était donné en vue du salut. Et un objectant à la question de l'article 1 de la question 37 de la Tertia Pars de la Somme de théologie de saint Thomas dit cette objection: la circoncision est ordonnée à remédier au péché originel. Or, on l'a vu, le Christ n'a pas contracté le péché originel, donc il n'aurait pas dû être circoncis. Mais que répond saint Thomas avec beaucoup de justesse ? La circoncision signifiait que l'on dépouillait l'ancienne génération. De cet ancien état de choses, nous sommes libérés par la passion du Christ. Et c'est donc la passion du Christ, donc le coup de lance aussi. Mmh. Hein. Et c'est pourquoi la vérité de cette figure ne fut pas pleinement accomplie à la naissance du Christ, mais à sa passion, avant laquelle la circoncision gardait son efficacité et son statut. Voilà pourquoi il convenait que le Christ, en tant que fils d'Abraham, fut circoncis. C'est dit d'une manière très propre, très ramassée, mais on comprend très bien que Jésus a voulu vivre jusqu'au bout la situation de son peuple pour montrer qu'il était adhérent à tout ce que la loi promettait de bon, mais l'accomplissement, vraiment, c'est sur la croix, au moment où son cœur se fend, son cœur est percé par la lance, et il donne cette circoncision du cœur à tous les chrétiens.
Mmh. Ce qui fait que, pour nous, il est important de ne pas regarder la circoncision simplement comme une anecdote au passage, parce que bon, il était juif, donc oui, oui. C'est-à-dire qu'on on peut la vider de son sens que tu viens d'expliquer voilà. Là. Et tu disais donc que dans la circoncision, alors du cœur, comme l'ancienne alliance déjà en parle, Dieu agit, c'est Dieu qui agit, mais tu disais nous-mêmes agissons. Et d'une certaine façon, ça rappelle aux chrétiens que il doit aussi offrir donc son cœur à circoncire. Il doit donner de lui-même, si je puis dire, dans cet oui. acte de foi, dans le salut que Dieu donne.
Oui, il faut toujours payer de notre personne, comme disent les mystiques, et c'est important de sans cesse le rappeler. Saint Paul a un passage important quand il dit que c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel. Telle est la circoncision du Christ. Enseveli avec lui lors de son baptême, vous en êtes aussi ressuscité avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et au moment où je dis que j'ai cru, il faut que je fasse un acte personnel.
Merci bien, frère Édouard.
Merci.